7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est philosophe.
Ou prof de philosophie.
Prof de philo.
Prof de philo, vous préférez. Bonjour Raphaël Enthoven.
Bonjour Léa Salamé.
Nous vivons sous le régime des plaintifs, sous la tyrannie des susceptibles. Et dites-vous dans Le Point cette semaine, c'est qui les plaintifs? Je veux dire, à part Nicolas Demorand, qui sont ces plaintifs, ces nouveaux censeurs qui menacent la liberté d'expression?
Je ne sais pas si Nicolas Demorand abuse des tribunaux et transforme la moindre pichenette qu'on lui fait en coup de poing. Je le connais un peu, j'ai pas ce sentiment-là.
Voilà.
Le plaintif, à la différence du plaignant, c'est celui-là. C'est celui qui interprète comme une offense majeure ce qui relève tout simplement d'une critique et qui se sert des tribunaux, qui va déposer plainte. Quand on traite quelqu'un d'arriviste, soudain il dépose plainte ou il porte plainte, je sais plus comment on dit. Mais le plaintif, c'est celui-là. Le but de cette démarche n'étant pas d'obtenir réparation, mais d'obtenir dommage, c'est-à-dire ratification par la loi d'une offense imaginaire. En fait, c'est une stratégie, le tempérament plaintif. C'est une façon de mettre un genou à terre, de combattre en mettant un genou à terre et de se déguiser en victime à l'instant où on ne vous agresse pas mais où on vous critique, ce qui vous permet d'échapper aux critiques, de fuir le dialogue en considérant que celui qui vous critique est un offenseur majeur.
Bon, si vous n'avez pas tout compris plus clairement, comment se manifeste cette nouvelle censure?
Oh ben cette censure,
ou
c'est
alors
très simple,
plus
c'est
prosaïquement.
Si vous me faites une critique, je dirais vous êtes méchante. Et en disant « vous êtes méchante », je disqualifie la critique peut-être pertinente que vous m'avez faite. Je fuis les arguments de cette façon-là. En posant un genou à terre, je mets mon cerveau en veille, en vérité. Et c'est ça qui est en jeu ici. Et le problème, c'est que les plaintifs qui abusent des tribunaux se conduisent en réalité eux-mêmes en voyous, puisque le but de ça, c'est de transformer l'interlocuteur en ennemi, l'adversaire en ennemi, et donc d'échapper au dialogue et de transformer ça en combat de rue.
Vous dites que les réseaux sociaux ne sont plus un espace de liberté, mais un espace de censure. Vraiment, c'est devenu ça?
C'est-à-dire que c'est une censure qui n'est pas verticale, donc c'est une censure qui est difficile à nommer. C'est une censure que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire que des groupes se constituent qui, en horde ou en meute, considèrent qu'une parole disconvenante ou une parole déplaisante est une parole à bannir. Et c'est une parole qu'ils essaient de recouvrir de leur propre vacarme. Et donc tout le paradoxe de Twitter, à mon sens en tout cas, c'est que c'est un espace de liberté, d'échange, enfin qui se présente comme tel, et qui en réalité culmine dans la censure de l'un par l'autre, ou dans une tentative d'écrasement d'une opinion par une autre.
Mais alors pourquoi vous passez tant de temps dessus? Vous passez des heures dessus à répondre aux gens, à ferrailler?
Oui,
est-ce que c'est pas de la perte de temps?
Je sais pas si c'est de la perte de temps, ce que je sais c'est que c'est inutile. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça ne changera rien.
Pourquoi vous le faites?
Mais parce que.
Pour la beauté du geste gratuit.
Non, parce que je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire dans le fait que ça ne serve à rien. C'est pas parce que c'est inutile qu'il faut pas le faire, si vous voulez. Il y aura la même proportion d'abrutis sur Twitter après mon départ, etc. Bon.
Parce que vous comptez en partir?
Un jour, forcément, on finit par en partir. Ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien. Non, ça, c'est vrai. En revanche, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de combattre, non pas pour une opinion, mais pour la possibilité d'en avoir une, et de l'élever au rang d'argumentation. Donc je combats pour ça. Je préfère 1000 fois avoir quelqu'un qui est en désaccord frontal avec moi, mais qui me serrerait la main si on se croisait, à quelqu'un qui est d'accord avec moi, mais qui le fait de façon caricaturale ou insultante.
Vous faites de la maïeutique ou de la polémique sur Twitter?
J'essaye de faire de la maïeutique, et la tentation de la polémique est là, évidemment, parce que j'aime bien rendre les coups qu'on me donne. Donc voilà, je suis partagé entre les deux, si vous voulez. J'ai pas peur du combat de rue, mais j'aime pas ça.
Quand on voit la violence des échanges sur les réseaux sociaux, et notamment avec vous, par exemple, tweet clash, comme on dit, avec Yacine Bellatar, que vous avez eu. Encore plus violent, Yacine Bellatar face à Manuel Valls. Finalement, ça devient quoi Twitter? C'est une agora ou c'est un égout où s'échange?
Pour reprendre l'exemple que vous citez, c'est très difficile de discuter avec Yacine Bellatar, avec qui pourtant j'avais les meilleurs rapports il y a longtemps. C'est très difficile de discuter avec lui puisque la moindre critique est perçue, alors chez lui en plus, comme une offense faite à l'ensemble des musulmans qu'il incarnerait soudain à la seconde où on lui fait une critique, même pas un grief. Donc c'est très complexe. Et donc moi, comme je n'arrive pas à obtenir de réponse argumentée, j'essaie au moins de manifester le fait qu'il ne répond pas. Un peu comme quand vous avez un invité qui pratique la langue de bois si fort que toute la seule ressource que vous ayez, c'est de faire entendre qu'il ne veut rien dire. Donc c'est comme ça que je travaille.
Est-ce que la religion reste le point Godwin sur de ces échanges-là?
Non, c'est pas la religion. C'est-à-dire que c'est l'islamophobie, le point Godwin, quand on discute avec quelqu'un de ces questions-là. C'est-à-dire que il y a des gens pour qui toute critique, tout blasphème est un racisme, ou bien toute critique est une offense. Et on a indexer la critique d'une religion sur du racisme, ce qui empêche de parler justement de ce qui compte, c'est-à-dire un, du racisme et deux, de la religion. C'est ça qui est problématique, c'est cet écrasement, encore une fois, d'une opinion sur une autre.
Ça vient des États-Unis, ce mouvement-là, où entre guillemets, on ne peut plus rien dire, même si j'ai l'impression que depuis que je suis journaliste, on me dit on ne peut plus rien dire, et en fait on me dit.
Ce que je vous disais de Twitter tout à l'heure, à savoir que c'est un espace de liberté qui en réalité fonctionne comme un espace de censure, me fait penser un peu à la société américaine, qui est effectivement un espace où l'on brandit une liberté absolue, vous pouvez absolument tout dire, et dans le même temps vous avez une jurisprudence qui s'instaure par, enfin une sorte de censure si vous voulez, qui s'instaure par les offenses que vous pouvez susciter, et aujourd'hui même les éditeurs font attention aux textes qu'ils envoient, donc c'est terrible. Donc effectivement il y a quelque chose de l'ordre de l'américanisation de la société, c'est-à-dire d'une parcellisation de la société aux dépens d'une appartenance à une entité qu'on appelle République.
Raphaël Enthoven, sur l'affaire Medine, ce rappeur qui est programmé au Bataclan alors qu'il chante notamment Crucifions les laïcars et dont l'un des albums s'appelle Djihad, quand Gérard Collomb n'exclut pas d'interdire Medine au Bataclan, c'est de la censure?
Ah oui, à mon avis, oui. Alors, il faut d'abord rappeler que djihad n'a pas le même sens que celui que la droite ou l'extrême droite lui donne, en l'occurrence, me semble-t-il, dans l'album de Medine. Alors, je suis pas islamologue, si vous voulez, mais j'en sais suffisamment pour savoir que djihad, au départ, n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Oui, c'est de la censure, bien sûr. C'est de la censure dans la mesure où ce pour quoi nous luttons, c'est une société où Medine a le droit de chanter au Bataclan. C'est aussi ça, c'est-à-dire où on pousse la liberté jusque-là. La contrepartie de ça, moi, il me semble, moi, je défends le principe qu'il chante au Bataclan, même si je trouve ça obscène. Je l'aurais pas invité, en soi, il doit pouvoir le faire. En revanche, la contrepartie de ça, c'est la possibilité, me semble-t-il, de lire intégralement et de discuter du texte de Charb dans un salon destiné aux musulmans, par exemple. C'est-à-dire de créer, justement, une zone de débat, un espace de débat, de faire entendre une autre voix que la sienne. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas fabriquer une société. J'aime à vivre dans une société où Médine a la liberté de chanter au Bataclan et où, en retour, on a la liberté de lire le texte de Charb un peu partout.
Et vous avez l'impression que ça s'arrête
J'ai le sentiment que la liberté qu'on revendique... C'est clair que la liberté revendiquée, la liberté d'expression revendiquée à l'appui de Medine au Bataclan est bien souvent l'alibi de l'entrée.
Quand vous voyez la conseillère com de l'Elysée balancer sur les réseaux sociaux une vidéo avec un vrai faux off d'Emmanuel Macron qui prépare son discours devant ses conseillers, Thomas Legrand a parlé de trumpisme de salon, vous en pensez quoi vous de cette vidéo?
Moi, ça me fait penser à l'histoire des lunettes noires de Roland Barthes dans les fragments d'un discours amoureux. Si vous portez des lunettes noires, vous ne les portez pas pour cacher vos larmes, vous les portez pour montrer que vous cachez vos larmes, ce qui vous permet de pas pleurer. Et bon, ben oui. Or, qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron ici? C'est une vidéo soi-disant volée. Or, il savait pertinemment qu'il était filmé. Vous imaginez si Beth Ndiaye prendre une vidéo volée du président et la mettre en ligne? Elle serait plus en poste aujourd'hui. Donc évidemment, il était au courant. Donc c'est une stratégie. Donc on n'a pas un président au naturel. On a un président qui se déguise en président au naturel. On a un président qui porte le masque du type qui a tombé tous les masques. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est-à-dire qu'on est dans une mise en scène au carré, alors que l'enjeu, c'est de donner le sentiment qu'on est sorti de la mise en scène parce qu'on le filme à l'iPhone et que l'image
donc
n'est pas
léchée.
À mon avis.
Sur le vocabulaire, quand il dit le pognon de dingue qu'on met sur les minima sociaux, quand il dit les gens qui foutent le bordel, ou encore c'est fini le temps où deux mâles blancs s'échangent des rapports, ce vocabulaire-là, venant d'un président de la République, il est disruptif, il est transgressif ou au fond, il est furieusement dans l'air du temps et conformiste.
Il y a deux choses ici, il y a une nuance à faire, parce que le pognon de dingue est une parole qu'il a tenue dans le cadre du film de la fausse séquence volée par Sibeth Ndiaye, donc il sait qu'on va l'entendre quand il dit ça, c'est comme quand il compare le discours qu'on lui a écrit à des lasagnes composées avec de la paille d'or, j'ai entendu ça. Il sait qu'on va l'entendre. Et là, il est dans une démarche de séduction. Les mâles blancs, c'est un tout petit peu différent. Je crois que c'est tout à fait délibéré. C'est une parole officiellement officielle, ce qui pose des problèmes, à mon avis, énormes, considérables, en matière justement de parcellisation de la société. Et voilà.
On vous réinvitera pour parler des mâles blancs dont vous êtes,
c'est
Raphaël Enthoven. Merci à vous.
Les mâles blancs.
Les mâles blancs.
Les fertiles.
N'importe quoi.
Voyez, leur donner la parole,
le plaintif reprend la parole.
C'est ça,
merci.
Leur donner la parole pour les faire taire.
Merci carrément. 7h57, merci à tous les deux.